Super, je suis prête.
Alors, un grand bonjour à tout le monde. Hein. Merci d'être venu pour cette nouvelle audio rencontre. Cette fois-ci avec pour invité Vanida, qui a fait de nombreuses bandes dessinées. Alors, juste pour l'anecdote, moi, c'est pendant le confinement que je t'ai découverte. Donc,
Oui.
voilà, c'est.
Un peu avant, non?
J'essaie de me souvenir. Oui, c'était un petit peu avant, c'est vrai. J'ai lu le reste des albums pendant
C'était
le
un petit peu.
confinement. Ça, en fait, ça s'est un peu
Oui,
confondu les
voilà.
deux périodes. Je pense que c'était peut-être au mois de février que je suis tombée, au tout début de l'année. Et puis, peu de temps après, c'était le confinement et je me suis après vraiment réfugiée dans les albums. Donc, voilà,
Super.
je te transmets le bonjour de toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur le chat. Et je ne sais pas si tu as eu le temps de faire un petit tour
Bonjour.
sur le salon des questions hier, mais on a eu des très très chouettes questions.
Alors, j'y suis allée là, il y a 2 minutes.
C'est tout
Voir
juste.
les questions.
Mais je
Mais du
vais
coup, voilà.
je vais m'en faire le relais et je vais essayer de les mettre dans un ordre qui fasse que ce soit un petit peu logique. Si tu es d'accord, ce serait juste d'évoquer peut-être juste au tout début, hein, comment est-ce que toutes les deux on sait comment nos trajectoires se sont croisées. Ça pourrait être sympa à
Ah
raconter.
oui, tout à fait. Alors, moi j'ai entendu parler de toi via Patricia Lifou, qui
pensez
est
pour
autrice de
Patricia.
bande dessinée. Oui, qui est aussi autrice de bande dessinée et que du coup je connais depuis au moins 15 ans maintenant, parce qu'on s'est croisés en festival plein de fois et puis on est devenus amis. Et du coup, quand je me suis inscrite sur Instagram, c'était un des premiers comptes auxquels je me suis abonnée. Et j'ai été submergée de fan art de la passe miroir de la part de
Patricia.
Patricia. Et donc, moi, je ne connaissais pas du tout tes romans. Hein. Mais j'ai commencé à avoir une petite idée des personnages via Patricia. Et en fait, ensuite, bon, je me suis dit, il faudrait quand même que je les lise. Et mon copain les avait déjà, en fait. Et donc, voilà, je n'avais plus qu'à les lire.
Et pendant ce temps,
Ce
dans un
que j'ai
monde,
fait.
dans un univers parallèle, moi j'étais en train de découvrir tes albums.
Oui, apparemment. Parce que moi, du coup, j'ai lu les 3 tomes pendant l'été 2019. Et j'ai appris que le tome 4 sortait en novembre 2019 et du coup j'étais hyper ravie parce que je n'avais pas beaucoup à attendre et en plus il sortait pile poil pour le début de mon congé maternité parce que j'étais enceinte et du coup voilà, je me suis dit ah mais c'est super, ça va être ma lecture de congé mat et donc voilà, j'ai lu dans la foulée et ah, j'étais enchantée.
Et alors, ce qui est amusant, c'est que moi, de mon côté, donc c'est une amie. Alors, pour l'anecdote, à l'époque où j'étais encore sur la Côte d'Azur, j'avais un petit groupe d'amis, dont une particulièrement maladroite, hein, qui m'avait inspiré d'ailleurs en partie Ophélie. Hein, c'est elle qui était venue le personnage d'Ophélie, le côté très maladroite qui s'assume. Et elle m'a mise en relation avec d'autres personnes. C'était des personnes qui étaient très passionnées de bande dessinée. Moi, c'était une époque où j'en lisais pas tant que ça. Et elles m'ont vraiment fait découvrir cet univers-là. Et c'est une de ces personnes qui m'a recontactée. Donc, moi, c'était tout début 2020, pour me dire qu'elle était tombée sur un fan art de toi de la passe miroir. Et que pour elle, c'était un peu la collision entre deux univers. Parce qu'elle me disait, c'est incroyable. Parce qu'elle me dit, Vanida, je la connais depuis ses tout débuts. C'est quelqu'un que je suis depuis ses premiers albums, dont j'adore le travail. Elle m'a dit, mais ça m'a fait. Elle m'a dit, quand j'ai vu qu'elle avait fait un fan art de ton univers à toi, ça m'a donné l'impression de deux univers qui faisaient collision. Et voilà, elle tenait à me transmettre ce témoignage-là. Je me suis dit, oh, bah, tiens, du coup, je me renseignais sur les albums de Vanida. Et j'avais pris le premier, Valentine. Et à peine j'ai terminé, j'ai dit, bon, il va falloir absolument la suite. J'ai tout commandé après la filée, mais je me suis dit, là, il faut vraiment que je suis vraiment tombée dans la marmite. Et une fois que j'ai fini les Valentines, je me suis dit, ça suffit pas, il va falloir que je regarde le reste de son œuvre. Je me suis procuré un petit goût de noisette, l'immeuble d'en face, pardon, entre ici et ailleurs. Et là, tout récemment, j'ai
Oui.
commencé l'immeuble d'en face. Donc voilà, je commence à me mettre à jour dans ton impressionnante production.
Ah. Merci.
Et du coup, bah, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant, ce serait de voir peut-être par ordre chronologique, toi, les albums, comment tu les... Dans quel ordre ils sont venus, en fait?
Alors moi, j'ai commencé par faire l'immeuble d'en face parce que c'est une production que j'ai commencé quand j'étais aux Beaux-Arts. Donc c'était une production
D'accord.
amateur à la base, enfin à la base
D'accord.
amateur, bah, pas destinée à la publication. Du coup voilà.
Et c'est comme ça que ça a commencé pour
Mais
l'immeuble
ce
d'en face.
que... Oui. Je voulais juste finir l'histoire de notre rencontre, c'est qu'après avoir lu mes albums, du coup tu m'as écrit. C'est ça l'histoire.
Ah oui, moi je perds complètement le fil. C'est pas tout à fait
Mais parce
raisonnable,
que moi,
quoi.
du coup, j'étais complètement
Ben,
bouleversée
disons que là,
de recevoir un mail.
avec les histoires, là, c'est vrai que je dis la façon dont on est tombé chacune dans l'univers de l'autre, mais pas comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai que, mais c'est vrai que du coup, quand dans la foulée, quand j'ai lu les Valentines, bah, je t'ai écrit tout de suite parce que je me suis dit, là, voilà, faut que je contacte cette personne et que je lui dise le bien-être hein, que ça m'a procuré. Hein, ça, c'était en plus vraiment, c'était très bien tombé. Hein, c'était une période où, bah, c'est vraiment, je pense que c'était pile ce dont j'avais besoin. Et ça m'a fait,
Ah oui,
j'étais
super.
dans un cocon là. Et bah, voilà, c'est vrai, tout à fait. J'ai pris l'initiative du coup de te contacter. Et tu m'as répondu pour me dire que toi-même, du coup, tu connaissais
Oui, je
la
venais de
chanson.
finir que j'étais... Alors c'était bien, c'était une double déclaration comme ça. Ah, j'adore ce que tu fais. Ah, moi aussi. C'était...
C'était beau, c'était émouvant, c'était. Et c'est vrai que
Ah oui.
depuis, ben, on est resté en correspondance,
En
hein,
contact.
voilà, on est resté
Oui.
en contact. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on ne s'est jamais rencontrés.
Ben non, parce que du coup, comme tu l'expliquais, c'était période confinement.
On
Donc,
a
enfin,
tenté.
c'était juste avant, on voulait se rencontrer. Et puis, ben,
Exactement.
après, c'était fichu parce que frontières fermées,
Oui.
plus le droit de sortir de chez soi.
Oui.
Et voilà.
Mais bon,
2 ans plus tard, c'est toujours pareil.
c'est vraiment, ça va se produire. Tôt ou tard, on va y arriver.
Oui.
En plus, techniquement, on n'est géographiquement pas si loin l'une de l'autre. Donc voilà, on va arriver à faire cette
On
rencontre
va finir
définitive.
par y arriver.
Mais en attendant, voilà, c'est déjà extrêmement, extrêmement sympa de t'avoir sur la rencontre, bah, sur le Discord. Et merci, hein, d'ailleurs,
Oui.
voilà, d'avoir accepté cette invitation parce que
Ah
c'est.
oui, merci pour l'invitation.
Surtout
J'ai
que.
tellement adoré les précédentes audio rencontres. Je trouve ça hyper intéressant à chaque fois d'apprendre plein de choses sur comment les gens écrivent, dessinent, leurs inspirations, tout ça. C'est
Oui,
passionnant.
et bien surtout qu'en plus, parmi les personnes là qui nous suivent, hein, qui sont donc présentes sur le Discord, il y en a quand même pas mal hein, dont je me suis rendu compte qui pratiquaient le dessin, l'aquarelle, la gouache. Hein. Ouais, j'avais posé un peu la question hier, mais je sais aussi, j'en connais pas mal. Voilà, je sais que vraiment, le lien au dessin, à l'illustration est quand même assez étroit. Hein. Donc, j'ai eu pas mal de rencontres aussi avec
Oui.
sur le thème de l'écriture. Mais je me suis dit, voilà, là, ça serait vraiment sympa de pouvoir aborder un peu le côté aussi, ben, illustration, la bande dessinée, c'est, voilà, à la fois très proche et très complémentaire hein, de l'écriture hein, romanesque. Donc, c'était, voilà, ça serait
Oui.
bien, bien sympa à voir. Et donc, excuse-moi, voilà, par rapport à l'immeuble d'en face, donc, c'est comme ça que tu as démarré.
Oui, alors ça c'est une BD que je faisais quand j'étais donc aux Beaux-Arts. J'étais en section bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, parce que moi j'habite à Lille et que du coup Tournai c'était pas très loin de chez moi, et parce que de toute façon je n'avais pas été prise à l'école d'Angoulême où je souhaitais aller.
D'accord.
Donc voilà. Et aux Beaux-Arts, on avait des BD à faire et on avait un sujet pour faire des BD de, allez, 10 pages environ. Et moi, j'étais frustrée de devoir changer d'histoire au bout à chaque fois de 10 pages. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des chapitres d'une même histoire. C'était un peu pour contourner les consignes. Des chapitres avec toujours les mêmes personnages. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'immeuble d'en face. Et parce qu'en plus, on avait un fanzine avec les copains des Beaux-Arts. Et du coup, je prépubliais chaque chapitre dans notre fanzine.
Sur le chat, il y a Papa Marion qui dit Angoulême a loupé quelque chose. Oui, je ne sais pas si tu as vu sur le chat, mais j'en profite pour montrer des petits visuels.
Oui, je
Voilà,
vois.
comme ça permet aux personnes de suivre un petit
Voilà.
peu
Donc on peut voir que mon style a un petit peu évolué depuis.
Et du coup, après l'immeuble d'en face, c'était les Valentines.
Alors en fait, en même temps que l'immeuble d'en face, j'ai fait une autre BD qui s'appelle L'année du dragon avec mon collègue François Duprat au scénario.
D'accord.
Et François Duprat était avec moi aux Beaux-Arts et ensuite on a travaillé en atelier ensemble. Et donc c'était une série aussi en 3 tomes. Donc je faisais les deux en parallèle, l'immeuble d'en face et l'année du dragon. Et ensuite j'ai fait Valentine.
Et si j'ai bien compris, parce que justement, il y a Nook qui avait posé une question par rapport à la réédition en couleur des. Alors, celle que, c'est l'autre, c'est le titre alternatif de Valentine.
Alors en fait, à la base, ça s'appelle Celle que. En fait, c'était un titre évolutif. Ça s'appelle Celle que je ne suis pas, Celle que je voudrais être et Celle que je suis. C'était pour montrer un peu
Oui.
l'évolution psychologique du personnage. Et du coup, c'était en noir et blanc, en format souple. Et moi, c'est ça que je voulais faire à la base. Et l'éditeur n'était pas tout à fait convaincu
Alors, je vais répondre à la
du
question de
format.
Nook. Elle voulait savoir si l'idée de la
Oui.
colorisation venait de toi ou de l'éditeur.
Voilà, alors à la base, elle vient de lui, parce qu'on était au début, enfin, on était dans les années 2005-2006, et le roman graphique n'était pas encore aussi démocratisé que maintenant.
D'accord.
Du coup, le format noir et blanc souple chez Dargaud, eux, ils faisaient pas trop et ils savaient pas comment ils allaient le vendre en fait. Et donc, en option, ils ont dit, ben, on le mettra en couleur si jamais ça marche pas. Comme ça, peut-être que dans le format cartonné couleur classique, ça marchera mieux. Et en fait, ça a très bien marché en noir et blanc. Et ils ont dit, ah ben c'est pas grave, on va aussi faire en couleur. Et comme ça, on va doubler les points d'entrée, quoi. Pour ceux qui n'aiment pas le noir et blanc, ils pourront avoir une version couleur.
Mais il se trouve que moi, en fait, je ne savais pas qu'il y avait la version noir et blanc. Je m'étais procuré directement la version en couleur. Mais c'est plus tard, sur un autre projet, que j'ai été découverte en noir et blanc. C'était sur Entre ici et ailleurs. Et ça fonctionne
Oui,
très bien.
mais
Ça
là du
fonctionne
coup,
très bien.
ouais, sur Entre ici et ailleurs, j'étais déjà passée au lavis, c'est de l'encre diluée, alors que sur l'immeuble d'en face et sur celle que je travaille à la trame, et ça c'est clairement l'influence des mangas, hein,
Ouais, la trame, excuse-moi, ça
qui.
consiste en quoi?
Alors la trame, c'est les petits points. Noirs qui sont plus ou moins espacés et qui font des gris plus ou moins sombres.
D'accord, c'est ça qu'on voit sur le. D'accord. J'en
Voilà.
profite
Et
pour
du coup, il y a
découvrir.
une partie des trames qui ont été gardées dans la version couleur, mais c'est parce qu'à la base, c'était en noir et blanc avec des trames, justement.
D'accord. Il y a qui demande, c'est produit
Alors,
comment la trame?
Moi, c'était de la trame faite sur ordinateur avec Photoshop. C'était fait un peu de façon artisanale sur Photoshop. Maintenant, il y a des logiciels qui sont super adaptés, qui ont des trames avec même les traits de vitesse et tout ça. Mais en fait, moi, je ne sais pas l'utiliser.
Et donc, tu es passé de la trame donc pour les albums des Valentines à pour Entre ici et ailleurs. Donc, si tu disais, c'est le lavis, là, c'est donc une autre technique.
Ouais, mais en fait j'ai fait d'abord un petit goût de noisette tome 1 où je suis
D'accord.
passée à l'aquarelle
D'accord.
parce qu'en fait
D'accord.
après avoir fait 600 pages de l'immeuble d'en face à la trame, 600 pages de celle que à la trame, j'en avais marre, je voulais faire autre chose et du coup je suis revenue à l'aquarelle que j'avais déjà utilisée un peu aux Beaux-Arts.
Je ne sais plus, à mon avis, c'est peut-être sur ton Instagram. Moi, j'ai vu un commentaire de toi par rapport, il me semble, hein, c'est par rapport à Valentine où tu en avais, à un moment donné, tu n'en pouvais plus, c'était de dessiner des décors de collège.
Ah mais oui, non mais les salles de classe, voilà là, quelle idée.
Et juste, bah c'est vrai que pour l'anecdote, bah pour les personnes qui ne connaîtraient pas les albums de Valentine, Pour l'histoire, bah, c'est un personnage, une fille, conçue sur toute sa période de fin de collège,
C'est fin de
de
collège,
lycée.
début de lycée.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment cette période de toutes les métamorphoses, le passage à l'âge adulte, et on la voit vraiment évoluer. Alors, bah, moi, comme voilà, c'est par ces albums-là que j'avais commencé ma lecture de ton œuvre. J'avais personnellement été, enfin, ce que j'avais trouvé très touchant, c'est qu'en fait, là où je m'étais en fait un peu reconnue, retrouvée dans cet album-là, c'est que on avait toutes les deux une héroïne assez introvertie. Et moi, bah, du coup, avec le personnage de Sully, qui ne parle pas beaucoup, qui a une toute petite voix fluette et qui est au début de l'histoire plutôt contemplative avant de commencer à entrer en action. Mais moi, grâce à l'écriture, bah, je pouvais vraiment passer par l'introspection pour permettre au lecteur de connaître ses émotions, ses pensées, son raisonnement. Alors que dans Valentine, bah, voilà, on a pareil un personnage qui au début est très en retrait, qui observe beaucoup et qui ne s'exprime pas tellement, et même se recouvre assez peu aux bulles de pensée. C'est au bout d'un moment, on finit par petit à petit avoir ses pensées, mais pas forcément dès le début. Et j'ai trouvé ça très fort parce que je me dis, en fait, c'est un personnage-là, du coup, on n'a pas là, de narration pour nous faire découvrir bah, ses pensées, ce qui se passe intérieurement et tout. Et pourtant, bah, l'attachement est immédiat et on l'a su. Enfin, moi, vraiment, je l'ai suivi dès le début, quoi. Je me suis dit, j'étais comme penchée par-dessus son épaule à me dire, mais à quoi elle pense? Qu'est-ce que cette expression-là, ça ressemble à quoi? C'est au fur et à mesure de la lecture, hein, du premier album et des suivants qu'on commence vraiment à rentrer en profondeur et voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et il s'en passe des choses, hein, à l'intérieur de Valentine.
Ah oui, bien sûr. Ah ben merci beaucoup, mais c'est parce que, enfin, moi je trouve ça, c'est le pouvoir du dessin quand même de pouvoir faire passer des émotions sans les mots, quoi.
Oui,
C'est quand même.
et ce qui est fort aussi, c'est que moi j'avais vraiment l'impression parfois, je me suis dit, ah tiens, je vois qu'elle emprunte un petit chemin. Oui, je vois à peu près où elle va en venir. Et non, il y avait un tournant au bout d'un moment qui dit, ah non, 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 on ne part pas du tout dans cette direction-là, en fait. Et c'était vraiment. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas du tout vu venir. Et j'ai adoré ça, justement, ce côté imprévisible et
Oui.
décalé.
Et moi, je pourrais dire exactement la même chose sur La Passe Miroir. Quand je le lisais, je me disais, mais comment, d'où viennent toutes ces choses? Je ne pouvais absolument pas anticiper rien du tout. C'était
Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait,
la
avec
découverte absolue.
tes albums, on est vraiment sur des histoires ancrées dans la vie de tous les jours. Notre monde à nous, c'est
Ah oui.
assez contextualisé. Les Valentines, c'est quelle période?
Alors du coup, moi, je les ai dessinés période 2006-2007 et les sorties en 2008. Donc on peut voir qu'elle a un téléphone portable à
Oui.
clapet.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est d'époque.
Ça va bientôt être. Bah, c'est déjà complètement passé de mode, mais il y a peut-être bientôt des personnes qui vont se dire, mais c'est quoi un téléphone à clapet?
Oui.
C'est là qu'on prend le coup de vieux, hein.
Terrible. Mais... Ouais, voilà. Voilà, c'est ancré dans son temps. Et en même temps, visiblement, des retours que j'en ai, c'est que ça reste un peu intemporel, parce qu'il y a encore des gens qui le lisent maintenant et qui se retrouvent complètement dedans, alors
Ah ben la preuve,
que voilà, ça,
moi je
la
l'ai lu
BD a plus
donc,
de 10 ans, quoi.
je l'ai lu en 2020 et ça m'a rappelé mes années collège des années 90, 90. Donc oui,
Des années
oui,
90,
oui,
oui. Et...
il y a Paper Marion sur le chat qui dit, et il y a le blocus du lycée avec la réforme des profs. Et c'est vrai qu'il y a ce mouvement-là dans la BD.
Oui, il y a un petit moment de grève, mais après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des grèves très régulièrement
Oui, maintenant je pense que
en
c'est oui.
France. Donc, parce que moi, quand j'étais au lycée en seconde, il y avait eu des grosses manifs. Et après, quand j'ai écrit ma BD 10 ans plus tard, il y avait encore des grosses manifs de lycéens. Enfin, donc voilà.
Il y a Flo, Maya et nous qui ont tout en commun de t'avoir lu bah, pendant les années collège. Hein. Là, tu as marqué une génération. Alors, si tu as vu les questions sur le salon dédié à ça, Donc, il y avait Nook et Maya hein, qui avaient vraiment dit, enfin, un retour de témoignage pour dire que les Vanidas, c'est vraiment une série qui les a marquées à l'époque où elles étaient en sixième. Donc là, elles ont vraiment grandi en même temps que Valentine. Et Salomé, pareil, donc.
Que Valentine.
Oui.
Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque où ils sont sortis, du coup, il y avait aussi des collégiennes, parce que c'est surtout des collégiennes, hein, j'avoue, j'ai un public très très féminin, qui l'avaient lu et qui du coup vraiment grandissaient en même temps que moi j'écrivais l'histoire et j'avais des retours en direct sur les albums et j'ai pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir quand on a des jeunes lecteurs, des jeunes lectrices. Et que j'avais une responsabilité, parce que c'est vraiment un âge où on se construit et que du coup, fallait pas que je fasse n'importe quoi.
Mais c'est intéressant.
Et
Et sinon,
notamment,
oui,
je
vas-y.
passe spoiler, mais à la fin du tome 2, il se passe quelque chose et du coup, d'après les retours que j'ai eus, enfin, ça n'a pas modifié mon tome 3, mais il y a des choses des explications que j'ai mises dans le tome 3. Pour ces personnes qui m'avaient fait ces retours parce qu'elles étaient choquées. Et
Je vois à quel
du coup, moi, je trouvais ça
sujet
important
tu.
de replacer les choses.
Et moi, ça fait partie justement des aspects qui m'avaient beaucoup plu. On ne dira rien, effectivement, on va laisser la surprise aux personnes qui n'auraient pas encore lu les Valentines. Mais ça fait partie justement des tournants de l'histoire que je n'ai pas vu venir. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment. Ok, là, quoi, elle prend une direction qui n'était pas du tout celle que je pensais. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Et c'est
Donc.
marrant parce que j'avais des retours des adultes aussi, mais les adultes ils disaient bah oui, la vie c'est comme ça, hein, c'est pas
Exactement.
toujours.
Et je pense que bah, les personnes bah, voilà, qui étaient peut-être un petit peu jeunes au moment où elles ont lu ça, qui ont pu voilà, du coup être déstabilisées par ce choix-là, après, avec le recul, en grandissant, dû se dire, bah oui, mais en fait, voilà, c'est réaliste.
Oui, mais parce que j'ai aussi des retours de gens qui me disent qu'ils l'ont lu en sixième, qu'ils l'ont relu après en rentrant au lycée, et qu'ils le relisent là, jeunes adultes, et qui n'ont pas du tout la même lecture, qui s'attachent pas du tout au même personnage selon leur âge, et je trouve ça super.
Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et oui, bah c'était aussi pour parler du coup. Là, donc, tu m'as dit hein, que tu avais commencé Un petit goût de noisette, le premier tome, et puis après, Entre ici et ailleurs, et puis après, c'était la suite d'Un petit goût de noisette. C'est pour bien placer les choses
Oui, parce que en
chronologiquement.
fait, un petit goût de noisette, à la base, c'était censé être un one shot. Donc après, j'étais passée à autre chose. Et en faisant Entre ici et ailleurs, il y a eu la frustration parce que j'avais pas pu mettre toutes les histoires que je voulais dans un petit goût de noisette. Un petit goût de noisette, c'est un recueil d'histoires d'amour. Et avec chaque histoire d'amour a sa couleur. Donc voilà. Et en fait, j'avais pas eu la place de tout mettre. Du coup, j'avais dû faire sauter deux histoires et après, bah voilà, j'étais un peu frustrée. Et en plus, les gens me disaient qu'ils aimeraient bien savoir ce qui se passe ensuite pour certains personnages. Et du coup, bon, voilà, les idées ont fait leur chemin. Et finalement, j'ai proposé à mon éditeur de faire un tome 2. Et en proposant le tome 2, j'ai dit, mais en fait, je pense qu'il y aura aussi un tome 3.
Quand on est lancé, on ne s'arrête plus. Et alors, bah, par rapport à Un petit goût de noisette, alors déjà, moi, je trouve l'esthétique superbe. Hein, et justement, ce choix de ne mettre qu'une couleur thématique par personnage, visuellement, c'est très fort. Et avec cette particularité, alors je ne sais pas si ça se produit dès le premier tome, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand des personnages bah, se rencontrent? Un personnage qui a telle couleur et un autre personnage qui a une autre thématique de couleur, voilà, au moment où ils se rencontrent dans l'histoire, ben voilà, les couleurs se rencontrent aussi. Et ça,
Oui,
c'est très très
oui.
fort. Hein.
Si, ça se passe aussi dans le tome 1.
Voilà, je ne savais plus, je sais, c'était pas immédiat, puisqu'au début, on les découvre un peu séparément, puis après, voilà, ça commence, et là, on finit
Ouais.
par la symphonie de l'arc-en-ciel.
Oui, mais c'est un peu ça.
Mais enfin, moi j'ai trouvé ça hyper intelligent et je me suis dit, mais c'est quand
Merci.
même. Enfin, voilà, je ne sais pas d'où est venue cette idée du coup d'avoir deux
Ah, mais je peux
personnages.
expliquer d'où m'est venue cette
Ah,
idée.
bah
Alors,
oui,
en fait,
carrément.
à la base, je voulais faire un style de dessin pour chaque histoire. Et il y a Jean-Luc Cornette, qui est un scénariste belge de bande dessinée, qui est un ami, avec qui j'ai fait la BD Un million d'éléphants, mais à l'époque on ne l'avait pas encore faite. Quand il a vu mon projet, il m'a dit, le fait de faire un style de dessin par histoire, ça va avoir l'air d'un recueil, comme si c'était plusieurs auteurs, et c'est pas ce qui se vend le mieux. Donc il m'a déconseillé de faire ça. En plus, je me suis aperçu que faire plusieurs styles de dessin, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai qu'un style et c'est le mien. Donc voilà. Donc j'ai cherché une autre façon de singulariser chaque histoire. Et comme en fait, la couleur, c'est pas si facile, je me suis dit, bah, si je me limite à une seule couleur, voilà. Pour commencer l'aquarelle, ce sera peut-être déjà un bon début. Et
Ah
c'est comme
ben,
ça que j'ai choisi cette technique.
challenge réussi.
Merci. Merci. Mais parce que oui, ben moi j'avais pas fait d'aquarelle depuis mes années beaux-arts, donc c'est-à-dire 12 ans auparavant ou un truc comme ça. Et j'étais un peu rouillée et j'avais peur de pas y arriver quoi avec cette aquarelle. Du coup, cette technique-là, de mettre qu'une seule couleur, ça m'a permis de me concentrer sur. Voilà, sur une seule chose à la fois, et j'ai adoré. Et c'est un peu aussi pour ça que je voulais faire un tome 2, parce que j'avais pas utilisé toutes les couleurs que je voulais.
Comment on est dans cette question-là, j'en profite pour relayer la question de Reza hier, qui je crois ne pouvait pas assister aujourd'hui au vocal. Je me demandais quelles étaient les inspirations de Vanida pour ses histoires, d'un côté, mais ça on va y revenir pour les inspirations parce qu'il y a plein de personnes qui t'ont posé la question. Et avec quelle technique de dessin elle aime travailler, digitale ou via des techniques plus traditionnelles? Donc là, par rapport aux techniques, comme on est en plein dedans, si jamais moi-même je me posais la question, quelle était la part de dessin traditionnel? Et quelle est la part, parce qu'il y a du numérique, du digital à côté?
Alors, en fait, pendant pas mal de temps, j'ai surtout dessiné sur papier. Je fais mes crayonnés sur papier, j'ancrais sur papier. Et alors, quand c'était du noir et blanc pour l'immeuble d'en face et celle que, c'était surtout toute la partie bulle. Les tours de cases et les trames qui se faisaient sur ordinateur. Là, pour une BD comme Un petit goût de noisette, du coup, ça devient plus compliqué parce que pour pouvoir corriger mon dessin au trait, je ne veux pas mettre l'aquarelle sur la même page que le trait. Donc, je fais un crayonné. Alors, avant, j'ancrais mon crayonné. Sur papier, maintenant je l'ancre à la tablette. Et sur une feuille à part, plus épaisse, adaptée pour l'aquarelle, je fais l'aquarelle à la table lumineuse. C'est-à-dire que j'imprime mon ancrage, je pose une feuille plus épaisse par-dessus. À la table lumineuse, par transparence, je vois le trait de l'ancrage. Et là, je pose mon aquarelle. Et après, je scanne mon aquarelle que je remets par ordinateur sur mon trait d'ancrage. Et ensuite, je refais les bulles et les tours de cases aussi à l'ordinateur, comme pour mes BD précédentes.
Waouh, oui, donc effectivement,
Vous voyez toutes les étapes?
mais c'est passionnant. Et alors, juste pour l'anecdote, moi j'ai eu une période avant l'écriture, enfin j'aimais beaucoup dessiner, et notamment cette fameuse période où j'avais ce groupe d'amis qui m'a fait tomber dans la bande dessinée, et puis je dis, ah, j'ai très envie de faire une bande dessinée moi aussi. Bon, je me suis arrêtée à la première image. Hein. Et je me suis dit, ah, bah, comment est-ce qu'ils font? Ça rend si bien. Alors, du coup, j'avais pris une feuille. Et je me suis dit, ah ben oui, ben, j'avais acheté du coup un petit matériel d'aquarelle. Déjà, la première chose qui s'est produite, c'est que j'ai fait complètement onduler le papier et c'était mis vraiment à. Je me suis dit, mais mince, sur les BD, c'est nickel. Et moi, quand je fais sur mon papier, il est tout ondulé. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, du coup, après, j'ai essayé de l'aplatir sous des dictionnaires et tout. Et puis, je me suis dit, bon, mais par contre, sur les bandes dessinées, on voit qu'il y a un trait noir et tout. Je me suis dit, bon, ben, je vais faire le trait noir. La catastrophe, quand j'ai passé le stylo noir, ça a bavé sur l'aquarelle, c'est devenu
Ah
noir.
là là.
Oui, donc, et là, je me suis dit, comment est-ce qu'ils font? C'est quoi leur secret? Donc voilà, tu es en train de
Non, mais
m'ouvrir.
il faut un feutre waterproof, c'est ça la technique.
Donc, c'était pas le petit
Et il faut
feu
attendre que
d'artifice
ça
de mon
sèche.
fusil. Je me sens moins seule, il y a Elliot qui dit, ah, tu sais, j'ai fait la même chose. Merci.
Alors, je pense que pour ceux qui qui font l'aquarelle et le trait sur la même page, et ils font d'abord le trait et qui font l'aquarelle ensuite. Et le trait est fait donc à l'encre waterproof, et normalement, après, quand on repasse le pinceau, ça ne bave pas. Normalement.
Oui, et puis je ne sais plus, j'avais vu un documentaire, on voyait aussi des personnes qui faisaient donc la colorisation d'un côté, qui après, il y avait une sorte de calque qu'ils mettaient par-dessus, où il y avait vraiment tout le trait sur le calque. Ça, c'était encore vraiment
Oui.
une page transparente, mais ça dit là, ça vraiment, ça, on atteint des sommets de
Ah ouais,
technique.
mais là, ça c'était à l'ancienne.
Oui.
Ça s'appelait un bleu. Il y avait une feuille sur laquelle était imprimé le trait noir en bleu pâle qui ne se voyait pas au scan. Et donc c'était colorié à la gouache en général. Et après, oui, par-dessus était reposée une feuille transparente sur laquelle a été imprimé le trait et composé par-dessus. Et après, c'était scanné comme ça. Voilà, ça c'est la technique avant le numérique. Mais je crois que il n'y a vraiment plus beaucoup de personnes qui travaillent de cette manière-là.
Et juste par curiosité, toi, quand tu travailles sur le numérique, tu as un logiciel de prédilection?
Alors moi, j'ai appris Photoshop quand j'étais, enfin toute seule en plus, quand j'étais aux Beaux-Arts, et depuis, je suis restée sur Photoshop. J'ai j'ai un peu la flemme d'apprendre autre chose. Il paraît qu'il y a plein d'autres super logiciels, mais je suis restée bloquée sur Photoshop. Oui.
Bah, quand on est très très habitué à un environnement, moi je connais bien Photoshop aussi, donc je comprends hein, quand on a vraiment ses habitudes.
Oui.
Mais voilà, non, c'était pas curiosité parce que je sais qu'effectivement là il y a beaucoup sur tablette maintenant un logiciel qui s'appelle Procreate. Je connais beaucoup de personnes maintenant qui
Oui,
utilisent
je
ça.
vois les gens qui parlent de
Avec le
ça
stylet,
tout
justement, il y a un stylet qui permet de faire des trucs. Alors, moi je m'en sers, c'est pour faire des dédicaces écrites numériques. Parce que ça améliore l'écriture.
Ah oui.
On peut paramétrer le truc pour que le trait soit amélioré. Et du coup, ça me donne une écriture presque jolie. Et quand j'ai fait la remarque il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais du coup, ça n'a plus aucune valeur. J'ai dit, mince. On perd le côté authentique de l'écriture.
Et oui.
Fermeture de la parenthèse. C'était juste. Bon, non, bah, du coup, toi, c'est plutôt Photoshop.
Plutôt Photoshop, oui.
Et
Enfin, uniquement Photoshop même pour le moment.
si on pouvait avoir un petit mot pour l'album bah, Entre ici et ailleurs que j'ai personnellement aussi beaucoup beaucoup aimé et j'ai même versé une petite larmichette hein, au moment de l'album, juste d'émotion.
Là
C'est pas que c'était triste,
Oui.
c'était juste de l'émotion et c'est rare hein, que un film, une série va pouvoir vraiment me faire voilà, verser une larmichette, mais c'est plus rare face à un support en papier et là, bah, là l'émotion était vraiment était tellement forte. Que ça a débordé et
Ah là là,
voilà.
elle, je suis touchée.
Donc bah celui-ci, ce
Mais
serait
c'est
Albania.
un
Comment
album.
es-tu venu?
Comment était venue l'idée de cette BD-là?
Oui.
Eh ben c'est à peu près 10 ans de réflexion sur justement mes origines. Alors, je sais plus, il y avait quelqu'un qui demandait tout à l'heure d'où me viennent mes inspirations.
Oui.
Alors moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment très 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 timide. C'est-à-dire que je ne faisais rien d'autre à part dessiner, je ne parlais pas aux gens, je ne jouais pas avec eux, quand à la maternelle par exemple. Et donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à observer les autres. Et je pense que c'est toutes ces périodes d'observation que j'ai emmagasinées en moi, plein plein de personnages comme ça, d'anecdotes, de façon de s'habiller, de façon de parler, enfin bon, tout ça quoi, qui m'inspirent et qui après forment des histoires de la vie de tous les jours, quoi, du quotidien, très très ancré dans le réel. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes BD que ce que j'avais envie de raconter était de plus en plus personnel. Et donc, Entre ici et ailleurs arrive un peu à ce moment-là où j'ai un peu envie d'explorer moi mon propre parcours, quoi. Donc voilà.
Et c'est cette cohabitation dans tes albums, et là c'était particulièrement fort entre ici et ailleurs, entre les petits gestes du quotidien, des images voilà, qui montrent juste des petits gestes anodins de la vie de tous les jours. et des questionnements qui sont extrêmement, voilà, extrêmement poussés et assez forts sur l'enracinement, l'identité, du coup, et voilà, les origines. Et c'est cette cohabitation, justement, des deux, je trouve que ça, c'est ça qui fait une combinaison très, très forte et très, très intense.
Merci. Ah là là. Parce que bah, c'est. J'ai pas envie de faire une BD, comment dire, leçon de vie uniquement, quoi. Ça reste un parcours dans une vie classique où on a aussi des moments où on doit se faire à manger et quand on a fait du sport, après on a des courbatures, quoi. Tout est imbriqué. Alors après, là, pour entrer ici et ailleurs. Le personnage, il fait un peu un parcours introspectif que en un an, ce que moi j'ai mis 10 ans à faire, quoi. J'ai un peu condensé pour que ça fasse une histoire, quoi. Et qu'on ait un peu un dénouement à la fin, parce que sinon, j'étais partie pour 40 tomes.
Et tu as, voilà, tu as gardé
Donc,
l'essence,
voilà.
tu es allé où? À l'immédiat.
Oui. Voilà. Voilà. Mais là, du coup, c'est très inspiré, c'est presque de l'autofiction, quoi. Voilà.
J'en profite pour te transmettre le message de Adali. Ce caractère personnel se sent beaucoup dans cette BD. C'était très touchant et très parlant. Ça m'a accompagné à l'époque où je me posais des questions sur mes racines. Merci beaucoup.
Ah, merci beaucoup, Adali. Oh là là. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit après la sortie de cette BD pour me raconter un peu aussi leur parcours, et c'était hyper
Ah,
enrichissant et
ça
passionnant de
amène
voir
énormément
les
de
parcours de
choses.
chacun. Bon, et voilà, ça faisait écho à des choses et des gens qui sont pas forcément d'origine asiatique, hein, vraiment des ou même des. J'ai une copine, elle a ses parents qui sont adoptés, ses deux parents, et du coup ça faisait remonter des choses aussi sur la transmission, sur d'où on vient et
Eh
qui on est, tout
ben,
ça.
ça touche direct, hein. Là, on sent que ça touche à quelque chose d'essentiel. Je vais,
Voilà.
alors, je ne sais, oui, ben, du coup, là, en ce moment, juste quand même pour ton actualité, là, du coup, tu es sur le dernier album de Un petit goût de noisette.
Oui, je suis en train de le finir. Enfin, quand je dis en train de le finir, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je suis en train de le finir. Il y a eu un peu eu
Ça m'a fait
oui, un
ça aussi pour mon
confinement avec
quatrième
des
tome,
bébés en plein milieu.
effectivement.
Ouais, ça a été un peu compliqué. Donc, normalement, je le finis pour le début de l'année prochaine et. Malheureusement, il ne pourra pas sortir tout de suite, parce que le planning de chez Dargaud était complet, donc il sortira en septembre 2022. Enfin, fin août, début septembre 2022. Donc voilà. On a encore un petit peu de temps.
Bon, ben, on va combler ce temps-là. On va te
Voilà.
réinviter.
Mais
Et ben...
oui. J'en ai fait d'autres des BD, allez lire les autres en attendant.
Et oui, voilà, comme ça, voilà, ça l'occasion de... Voilà, il y a encore matière à explorer. Et là, c'est un peu pour transmettre un petit peu les questions qui avaient été posées sur le salon hier. Juste revenir un instant, il y avait Alia qui avait demandé quel était ton parcours. Si tu avais fait donc des écoles d'art, là tu l'as évoqué, mais est-ce que ça, le fait de faire des écoles d'art, est un prérequis quasi obligatoire pour rentrer dans le métier?
Alors non, on n'est pas du tout obligé d'avoir fait une école d'art pour faire de la bande dessinée de façon professionnelle. Il y en a plein qu'on n'ont pas fait, et il y en a plein aussi qui ont commencé, qui n'ont pas fini et qui ont quand même été édités. Et il y en a plein aussi qui ont fini les 4 ans de Beaux-Arts section BD et qui n'ont jamais été édités. Donc comme
Ça,
quoi, ça
c'est
n'a pas
dit.
de lien. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était hyper enrichissant d'être avec d'autres gens qui font de la bande dessinée, qui ont la même passion. Alors, les profs sont là aussi, bien sûr, pour nous guider et nous faire apprendre plus vite que ce qu'on peut apprendre tout seul, en général. Mais le fait d'échanger et avec ses camarades de classe, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai trouvé
Ouais.
hyper enrichissant. Il y a eu une émulation comme ça, on est tous en train de découvrir plein de choses, c'était vraiment super. Alors ça dépend aussi des années, ça dépend avec qui on tombe. Moi par exemple, j'étais très très amie avec des personnes qui étaient dans la classe au-dessus de moi. Et comme les 4 années de la section BD sont mélangées une fois par semaine pour le cours de BD, Oh, ça permettait vraiment des échanges comme ça avec
Ouais, c'était pas
ceux qui sont dans les classes
cloisonné
supérieures.
année après année.
Mais c'était pas cloisonné. Et voilà. Et du coup, alors c'est vraiment très très bien entendu. Ben, il y avait François Duprat avec qui du coup j'ai travaillé. Et on est toujours ensemble en atelier, encore maintenant. Ça fait plus de 20 ans qu'on se côtoie pour le boulot, quoi. Donc c'est super. Donc il relit à chaque fois toutes mes BD. C'est lui mon bêta lecteur.
Ton bêta lecteur.
Et je suis aussi
Oui,
sa bêta lectrice. Donc voilà.
ça, ça crée des relations sur le long terme et ça permet aussi des projets en collaboration.
Oui, voilà. Et en plus, comme ben voilà, on connaît ceux qui sortent avant nous, qui rentrent dans le milieu de l'édition avant nous, ils ont aussi après des réseaux ou des. Voilà, si on a des questions sur des contrats ou des choses comme ça, ils peuvent aussi
Ça, c'est bien.
nous aiguiller. Ouais, c'est tout un réseau. C'est quand même important. Parce que c'est. Dessinateur de BD, ça peut être aussi très solitaire comme métier, donc. Si on peut s'entraider, c'est quand même bien, quoi.
C'est peut-être un peu ce qui me manque. Il manque une équivalence peut-être dans le domaine de l'écriture, du coup, pure et dure. Hein. Là, c'est vraiment, il n'y a pas
Ouais, les
beaucoup.
rencontres que tu fais en salon du livre,
Voilà,
débouchent pas un peu
une
sur ce
fois
genre
que
de.
j'ai publié, effectivement, c'est pendant les salons où là, on va pouvoir peut-être échanger avec d'autres auteurs. Oui, moi, c'est vraiment parmi mes premiers salons, bah, comme ça, j'ai pu rencontrer Carole Trébor qui m'a beaucoup aidé à découvrir un petit peu les coulisses du métier. Et puis après, petit à petit, par la suite, effectivement. Mais c'est vrai que toute cette période avant édition, avant de trouver un éditeur et du coup de faire des salons, alors moi, j'ai eu la chance de faire partie donc d'une communauté d'écriture avec qui j'ai vraiment des liens très, très forts. Mais voilà, je ne sais pas si c'est si évident dans cette période, voilà, un petit peu préalable. Et même cette époque-là, donc moi, c'était sur une plateforme qui s'appelait, qui s'appelle Plume d'Argent, j'en parle au passé parce que j'ai plus mes histoires dessus, mais elle existe toujours. Et j'y suis toujours présente dessus. C'est le côté justement connaissance du milieu. C'est beaucoup des personnes qui écrivent, qui sont passionnées d'écriture, mais qui connaissent assez mal finalement les rouages de l'édition. Enfin, tout le monde aspire à être édité, mais finalement, donc il n'y a pas beaucoup de retour d'expérience. Et ça, ça manquait un petit peu de
Et
savoir. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est sympa cette dimension-là de ton parcours. Et le côté atelier, ça aussi, ça me plaît beaucoup quand tu me dis oui, je travaille en atelier.
Ah oui, ah oui. Alors j'ai mon bureau chez moi et j'ai aussi donc un atelier avec. Là, on est quatre dessinateurs de BD ensemble et. On est tous issus des Beaux-Arts de Tournai. Alors, il n'y a pas eu que des personnes issues des Beaux-Arts, c'est un peu tourné, hein, mais c'est vrai que ça reste notre réseau principal, quoi.
Moi, je trouve le principe extrêmement chouette. Ça me fait rêver. Je vais te transmettre d'autres questions. Adali qui t'avait demandé, est-ce que le médium de la bande dessinée a été pour toi une évidence? Pourquoi ce choix de la BD pour raconter des histoires et le rapport que ça a avec les autres arts na narratifs comme le cinéma ou l'écriture? Donc, ouais. Pourquoi la BD plutôt que autre chose?
Alors, bah comme j'expliquais, voilà, quand j'étais à la maternelle, je ne parlais à personne et donc je ne faisais que dessiner. Donc le dessin, c'était mon premier moyen d'expression quand j'étais enfant. Et j'ai fait ma première bande dessinée à 6 ans, à ma rentrée au CP en fait, de façon un peu spontanée. Il y avait quelques BD à la maison, et ma mère elle avait des Tintins. Et des Astérix, mais c'était pas le genre de BD qui m'inspirait le plus, mais j'ai dû reprendre ça de là, je ne vois pas, ou alors, bon, spontanément, en tout cas, j'ai fait des cases les unes à côté des autres avec des bonhommes bâtons qui faisaient de la balançoire et des pique-niques.
C'était une question de Maya qui demandait si tu avais une BD qui t'avait donné envie d'en écrire toi-même.
Ah, bah donc moi j'ai fait cette petite BD, enfin petite, j'ai quand même fait, je sais pas, 40 pages de bonhommes bâtons qui font de la balançoire. Ça a duré quelques années comme ça. Et ensuite, moi j'étais très très influencée par les dessins animés japonais qui passaient à la télé dans les années 80-90. Et donc j'ai commencé à recopier vraiment du Olivier Tom et du Chevalier du Zodiaque et du Samouraï de l'Éternel. Et du coup, à ce moment-là, je voulais faire du dessin animé. Bon, alors je me suis un peu renseignée. Le dessin animé, c'était 24 images secondes. Bon, voilà. À 10 ans, c'est pas évident. Donc j'ai pas fait de dessin animé. Si j'avais pu, j'aurais fait, mais bon, voilà. Et ensuite, quelqu'un a offert un Torgal à mon frère. Et alors là, ça a été la révélation. Parce que je crois que c'était la première fois que je lisais une BD semi-réaliste dramatique. Voilà, Tintin et Astérix, c'était des BD comiques, enfin aventures comiques. Et alors là, il y avait des morts, il y avait des histoires d'amour passionnées, impossibles. Enfin, c'était. Je suis tombée dedans. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu faire de la BD.
Mais je pense que tu réveilles beaucoup de
Donc, j'ai
souvenirs
mélangé.
sur le chat. Il y en a Torgal, ça fait réagir.
Oui. C'était le tome 5, Au-delà des ombres, si vous voulez tout savoir. Et du coup, j'ai recommencé une BD avec un style inspiré des samouraïs de l'Éternel, chevaliers du Zodiaque, et avec une narration un peu à la Torgal, quoi. C'était ma première hybride BD. J'ai fait ça pendant, je sais, je me suis pas arrêtée avant jamais, en fait.
Et en fait, je rebondis sur ce que tu disais qu'à la base, c'était les dessins animés qui t'avaient attiré. Si aujourd'hui, on te proposait hein, de travailler sur un projet de dessin animé, tu penses que tu serais capable du coup, parce que maintenant les technologies ont peut-être un peu évolué par rapport à l'époque, est-ce que c'est quelque chose qui te ferait envie?
Non, non, parce que du coup, je me suis bien rendu compte que le dessin animé, c'est quand même dessiner beaucoup, beaucoup de fois des personnages avec un mouvement presque pareil, enfin, presque dans la même position. Et puis il y a une dimension, la dimension de sonore, enfin, il y a tout plein de dimensions comme ça que en fait qui m'attirent pas forcément. Et du coup, non, non, je me rends compte que vraiment, c'est la bande dessinée, mon média, quoi.
C'est ça qui est devenu ta voix. VOIX,
Et
VOIE.
ouais, il y a. Mais tu sais, Patricia Lifung, justement, elle a fait du dessin animé. Et en tant que chara-designeuse, je ne sais pas comment on dit. Et en fait, c'est surtout du travail d'équipe. On peut rarement faire son propre projet dans le dessin animé. On est toujours à plus ou moins un échelon de un maillon de la chaîne du dessin animé, quoi. Alors que la bande dessinée, là, vraiment, on est à la fois scénariste, metteur en scène, coloriste, dialoguiste, enfin, on fait vraiment tout, quoi.
Et
C'est.
toi en particulier, tu as
On est
cette
Dieu.
casquette. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi des choses qui te caractérisent. C'est que sur tes projets d'album, c'est toi qui. Voilà, là, ce qu'on a évoqué ici. Tu es la scénariste, tu es l'illustratrice, tu es la coloriste. Voilà,
Oui.
sur ces projets-là, tu es vraiment capable voilà, de coiffer toutes les casquettes.
Oui. Alors j'ai fait des collaborations, mais c'est plus pour le plaisir de collaborer que parce que je ne sais pas faire l'une ou l'autre partie, quoi. Alors à part pour Valentine, du coup oui, c'est pas moi qui ai fait les couleurs. Parce que j'étais sur un petit goût de noisette et que je pouvais pas faire les couleurs de Valentine en même temps. Donc voilà.
D'accord.
Du coup,
Donc c'est
j'avais
les accents
délégué
de
à
Valentine.
des coloristes.
D'accord.
Ouais, voilà.
Et juste pour revenir, tu sais qu'on a évoqué tout à l'heure ce qui t'a inspiré pour la bande dessinée. C'est juste dans le processus vraiment là, de création de l'histoire, c'est nous qui Carencia qui se posait la question. Est-ce que tu as d'abord l'histoire qui te vient en premier ou est-ce que ça va plutôt être, tu vas partir d'un dessin d'un personnage et puis à partir de là, quelque chose qui se crée autour du personnage?
Alors ça vient un peu de façon tout mélangé. Mais oui, souvent c'est plutôt un personnage autour duquel je vais broder et puis du coup il va y avoir des personnages secondaires qui vont se mettre à côté avec des thématiques souvent. des choses que je veux aborder. Et du coup, les personnages, ils se créent aussi comme ça. Et par contre, parfois, il y a des scènes qui s'écrivent parce que je veux dessiner quelque chose de précis, une ambiance, un décor ou quelque chose, et que je m'arrange pour que l'histoire arrive à la scène que je veux,
D'accord.
quoi.
Ça va plutôt bien avec la question que Nook se posait, c'était par rapport à comment les auteurs de BD équilibrent narration et dessin. Est-ce quelque chose de préétabli ou est-ce que cela vient au fil de la création des plans? Là, du coup, je pense que tu réponds assez bien à cette question-là.
Alors, moi, en plus, j'ai la chance de faire des BD avec une grosse pagination. Enfin, je dis j'ai la chance parce qu'à une époque, c'était pas aussi libre dans la pagination et on était un peu cloisonné dans le 46 pages couleur. Et personnellement, si j'avais dû faire ça, je pense que je me serais senti très à l'étroit. Moi, j'ai toujours pu faire des BD de plus de 150 pages. Plutôt proche des 200 pages, et du coup, avec une pagination comme ça, on peut développer des choses et des choses, moi, que personnellement j'adore, c'est des passages justement sans dialogue avec que des images. Ce qu'on peut pas faire en 46 pages couleur parce qu'on n'a pas assez de place. Sinon, à la fin de l'album, les gens vont dire qu'il s'est rien passé, quoi. Donc,
Mais c'est vrai que ça
donc on
fait
peut pas le
partie
faire.
des choses que j'ai appréciées dans tes bandes dessinées, ce sont les silences. Que c'est pas tout le temps des bulles du dialogue, du dialogue, du dialogue, c'est qu'il y a des moments, des plages de silence complètes, et c'est de la contemplation, et on regarde juste un personnage qui va faire des petits gestes ou un paysage. Et ces moments-là sont vraiment. Il se passe aussi quelque chose de très fort dans ces moments-là.
Oui, ben moi je trouve que c'est des moments importants parce que comme ça, enfin, le lecteur ou la lectrice peut y projeter justement ses propres sentiments, ses propres sensations. Et c'est comme ça que oui, il y a des émotions fortes qui peuvent après ressortir, quoi.
Je confirme.
Et moi, ça c'est vraiment quelque chose qui me vient plutôt de la lecture des mangas. Parce que eux, ils ont la pagination, justement, ils peuvent se permettre de faire des pages sans dialogue et voilà, des scènes contemplatives. Alors ça dépend des mangas, il y en a qui le font pas du tout, mais.
Oui, mais disons, voilà, tu as vu différentes façons de faire à gauche et à droite, et à partir de là, tu as trouvé ta petite recette.
Oui, voilà. Voilà, j'ai un peu mixé tout ce que j'aimais et pour que ça corresponde à mes histoires. Et du coup, oui, le fait d'avoir aussi comme ça beaucoup de pages, on peut jouer avec le rythme, c'est quand même très très confortable.
Oui, ça c'est vrai qu'il y a une évolution. On remarque, enfin, moi-même qui connais assez mal le milieu de la bande dessinée, je me rappelle hein, de cette époque où c'était quand même assez codifié, il y avait vraiment un format assez prédéfini. Et puis après, là, maintenant ce qu'on arrive à voir, c'est extrêmement varié. On part vraiment sur des choses très très
Ouais, ah, ça
différentes. Et
c'est
là
vraiment
maintenant,
super.
on nous suit. Maintenant, il n'y a pas... Et c'est super, ça permet vraiment, ça laisse la place à pas mal de choses. Il y a Dorloté qui te demande si tu connais. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein. Jiro Taniguchi?
Jiro Taniguchi, oui, absolument. Voilà, c'est oui, ça a été une révélation aussi quand j'ai découvert son travail. Donc c'est un mangaka qui a une narration plutôt proche du franco-belge. Et qui est beaucoup beaucoup dans la contemplation, quoi. Il y a une BD qui s'appelle L'homme qui marche, où justement c'est juste un homme qui marche dans sa ville, et voilà, après il croise un chien, il va près de sa rivière, enfin bon,
Oui.
il s'assoit sous un arbre, c'est vraiment hyper contemplatif et c'est génial.
Bon, bah alors là, du coup,
Il y a une
puisque
ambiance incroyable.
ça tombe très bien parce que justement, il y avait Maya qui te demandait si tu avais des recommandations BD. Donc, on retient les Torgal. Jiro Taniguchi, donc avec l'homme qui
Alors,
marche.
l'éditorial, ça a continué. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de tomes. Moi, j'avoue, j'ai décroché quand j'avais, du coup, à l'adolescence, quoi, 16-17 ans. C'était plus du tout le genre d'histoire qui m'attirait. Et finalement, moi, je les ai empruntés pendant le confinement. Enfin, j'ai lu la suite pendant le confinement. Et il y a des choses qui m'ont plu, d'autres moins, mais. Voilà, retrouver le dessin de Rosinski, qui est un dessin avec lequel je me suis construit, c'était bah, c'est l'ultra nostalgie. Et c'est vraiment comme si j'étais à la maison, quoi. C'est incroyable. Le pouvoir comme ça des choses qu'on a lues ado.
Et si jamais tu as d'autres recommandations à nous faire
Mais ça, c'est trop dur, les recommandations.
Ah oui, c'est trop bien. À chaque fois qu'on me pose la question, je me dis, mais pourquoi vous me posez cette question-là,
Ouais.
horrible?
Ouais, moi je bug complètement.
Si jamais, je sais
Si,
pas si
alors
tu as
j'en
une
ai parlé il n'y a
dernière
pas longtemps.
lecture.
Mais voilà, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur mon Instagram. C'est que j'ai découvert les webtoons, donc la lecture en ligne de. Voilà, et il y a un auteur qui fait du webtoon qui s'appelle Pralinus, Théodore Pralinus, qui. Alors, il fait pas que de la BD. Il est complètement incroyable. Il a une chaîne YouTube où il explique plein de choses, en particulier sur le yaoi, qui sont les mangas de boys love dessinés, écrits par les femmes à destination des femmes. Enfin bon, c'est un univers passionnant aussi à découvrir. Et du coup, lui, il fait un webtoon qui s'appelle Boy Will Be Boy.
Je suis en train de chercher
Donc
justement
voilà.
si je peux passer le lien. Sur Webtoon, il demande hein, l'âge de avant de pouvoir accéder à l'intérieur, il faut d'abord mettre sa date de naissance. Attention à ça.
Donc voilà, moi c'est ma dernière découverte. Et
Donc Pralinus, tu l'écris comment, Pralinus?
plusieurs. Pralinus, comme praline avec US à la fin.
Ah oui, ça y est, je le vois. Je vais mettre le lien donc Tant qu'à faire.
Voilà.
Voilà, ça c'est ton dernier coup de cœur en date.
Oui, tout à fait. Et alors avant, il a fait du fanzine et il a publié plein de trucs en ligne, mais que moi j'ai du coup acheté en papier parce que en fait j'aime mieux lire sur papier. Et j'ai retrouvé une fraîcheur de voilà de première BD quoi. Et aussi des personnages complexes et attachants qu'on peut suivre comme ça dans une relation amoureuse sur plusieurs tomes. Alors c'est du fanzine, hein, mais c'est quand même super bien.
Eh ben, du coup,
Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas le trouver dans le commerce. Allez sur son site, peut-être que c'est encore dispo, c'était même peut-être dispo encore en ligne, mais voilà.
En tout cas, là, j'ai mis le lien qui mène vers le webtoon. On ira jeter
Oui,
un
voilà,
œil.
super.
Peut-être même
Merci,
deux
Christelle.
vieux, voire trois vieux. Et il me restait alors peut-être, si tu as encore un tout petit peu de temps, j'ai encore deux dernières petites questions pour toi, puis après je te libère.
Pas de problème.
Alors c'était Maya qui voulait savoir si tu écoutais de la musique pendant que tu dessines, que tu scénarises, et bah, si oui, qu'est-ce que tu écoutes?
Alors non, pendant que je dessine et que je scénarise, alors pendant que je scénarise, je n'écoute rien parce que sinon ça me parasite. Le mieux, moi, je trouve pour scénariser avec du bruit, c'est quand il y a d'autres gens autour, des conversations, par exemple dans un train, dans un bar ou quelque chose comme ça. Même si moi je le fais pas trop, mais je sais que j'ai souvent des idées quand j'entends des bouts de conversation, ça me nourrit beaucoup. Et alors après, par contre, pour dessiner, je peux écouter n'importe quoi, mais en ce moment, j'écoute pas vraiment de musique, j'écoute plus des émissions. Alors j'avoue, j'ai une petite passion pour les meurtres et les crimes sordides. Donc j'ai beaucoup écouté Faites entrer l'accusé de Christophe Ondelat. Et voilà, là je viens de découvrir une youtubeuse qui raconte aussi des crimes. Et elle, son angle, c'est plutôt la psychologie des meurtriers. Donc alors moi j'aime beaucoup la psychologie des personnages en général. Et donc voilà. Là c'est des meurtriers, mais ça m'intéresse aussi.
Ah ben c'est intéressant. Mais du coup, ça varie un peu des
Elle
séries
s'appelle
spécifiques.
Sonia. Sonia Liu, je sais pas comment dire, ça s'écrit LWU.
Très
Donc
bien.
voilà. Alors sinon, en vrai, en musique, j'écoute quasiment que de la chanson française. Je suis très Barbara et Benjamin Biolay. Voilà.
Voilà, comme
C'est.
ça, nous saurons tout. Oui, je pense que je l'ai trouvé. Je vais mettre le lien comme ça les personnes, si jamais ça, il y en a qui veulent un peu
Les personnes qui aiment les meurtres pour.
Il se trouve que moi, les émissions comme Faites entrer l'accusé, ça me fascine quelque part. C'est
Mais
bien, enfin,
oui.
c'est bien construit. C'est justement, on part un peu d'un puzzle, on comprend pas. On se dit, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et il y a une intention d'essayer de comprendre. Et généralement, sans
Oui.
parvenir tout à fait, parce qu'il y a toujours une part qui nous échappe, mais cette
Non, non, le
intention de
mystère de l'âme
comprendre,
humaine.
voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Et je te transmets un petit message de Chalilou sur le chat. Merci beaucoup pour cette discussion. Très fan de TBD Vanida. J'aime beaucoup l'ambiance, tes persos et les dessins. Et merci Christelle d'adorer la patinoire. Vivement d'autres projets. Un grand
Mais oui,
merci.
vivement.
Merci, merci. Et la dernière petite question bonus nous venait de Sybille. Quel est
Oui.
ton Ghibli préféré? Ça fonctionne un peu comme un révélateur de personnalité.
Alors, mon Ghibli préféré. Oh là là, c'est tellement dur. J'hésite entre le voyage de Chihiro et le château ambulant. Ben, je peux pas choisir, je vais dire les deux, voilà.
Tu n'as que le droit.
J'ai aussi un coup de cœur particulier pour Totoro, qui est le premier que j'ai vu. Et quand je l'ai vu, alors qu'il était en japonais, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais
Tu l'as
je
vu en
suis retourné en
japonais?
enfance.
Tu l'as vu
Littéralement,
en japonais?
j'avais 4 ans. Oui, c'était une période où on pouvait s'échanger des cassettes comme ça, là, de trucs.
D'accord. Donc, tu as obtenu une version
Mais
VHS.
oui, mais tu sais que Nausicaa, je l'ai vu en japonais sous-titré chinois, tu vois. Donc,
Ah
c'est un film qui
oui.
fait quand même 2 h 30, je sais plus. Mais voilà. Les passionnés, les fans, ils font n'importe quoi.
Ça
Ils
converse
regardent
comme
2 heures
de
de.
l'eau.
Donc voilà. Et après, j'ai aussi une pensée pour Princesse Mononoke, qui est un des premiers que j'ai vu au cinéma, du coup.
Ah, ça doit être très impressionnant à voir au cinéma. Donc, l'ambiance qui
Ah
se
ouais,
crée quand tu regardes ce film-là.
c'était incroyable. C'était incroyable. Donc voilà, finalement, j'en ai pas du tout dit un.
Mais je remarque quand même, voilà, quand même, le voyage de Chihiro, Château ambulant, on est vraiment dans des ambiances très fantasy, finalement, assez différentes de tes
Mais oui,
ambiances.
mais alors tellement, j'ai tellement pensé à ces films quand j'ai lu la passe miroir. Ah, c'était. Voilà quoi. Mais en plus, parce que Christelle, tes descriptions sont tellement visuelles. Du coup, on a. Alors moi, du coup, j'avais du Patricia Lifung mélangé à du Miyazaki. Voilà, c'était parfait quoi.
Voilà.
J'avais tout en tête.
Bon, bah en tout cas, c'était vraiment, vraiment très, très chouette de t'entendre là sur ton parcours, tes albums. Et même moi, en fait, j'ai pas mal échangé
Est-ce
là-dessus.
que je peux raconter une petite anecdote?
Je te mets pas
Parce que
du
dans
tout
mon
la faute,
parcours,
hein.
oui, j'ai fait une seconde art appliqué après ma troisième. Et moi, j'habitais à la campagne et du coup, j'ai dû aller en internat à Toulouse pour faire ma seconde art appliqué où je ne connaissais personne et du coup, j'étais plus chez moi, tout ça. Et quand Ophélie arrive à Babel dans le tome 3, voilà, ça m'a fait remonter des souvenirs. Alors heureusement, je n'ai pas vécu la même chose qu'elle, mais quand même, il y avait des similitudes sur quand on découvre un nouvel endroit et cette ambiance d'espèce de huis clos avec
Quand on coupe le cordon
les
avec
dortoirs
l'autre.
et tout ça. Voilà. Mais en
Rassure-moi,
fait, dans la passe miroir.
tu n'as pas été bizutée, j'espère.
Non, 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 pas du tout. Mais dans la passe miroir, il y a eu plein de moments comme ça où ça faisait écho à des choses de ma vie. Et voilà, moi j'ai adoré quoi. C'était incroyable.
Mais de toute manière, ça, moi-même, hein, je l'ai ressenti en lisant tes albums et après, par la suite, en échangeant avec toi, une connexion. Ouais, la ressemble.
Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui jouent de façon inconsciente, comme on est de la même génération, on a dû voir les mêmes influences. Enfin, il y a des choses, j'ai l'impression, qui ressortent comme ça en souterrain et qui se font écho.
Bah, sur ton Instagram, à un moment donné, je ne sais plus si c'était un Inktober ou que tu avais fait un mois, mais pratiquement tous les jours, tu mettais une illustration Généralement, c'était un personnage de, pour ainsi dire, de dessin animé. Enfin, vraiment, c'était des références. Et à chaque fois,
Oui.
c'était des films. Vraiment, c'était des références de mon époque aussi. Ça m'a fait remonter des souvenirs en voyant sur ton Instagram ainsi.
Mais oui.
Je me suis dit, ah oui, on a
Oui,
vraiment vu
tu
les mêmes
m'avais
films.
parlé de Prince of
Vraiment,
Persia.
notamment.
Notamment. Et on avait parlé de Myst aussi une fois. Moi, je trouve ça incroyable parce que c'est quand même un jeu vidéo un peu oublié
Oh
et
là là, et
qui
pourtant.
est remonté comme ça avec la lecture de la passe miroir et en discutant avec toi. Je trouve ça.
Ah mais
Voilà.
Myst, là, je ne sais pas s'il y a des versions qui ont été un peu actualisées, mais si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous invite. Hein. C'est extrêmement particulier. Enfin, moi, j'ai adoré hein, les Myst. Hein. Voilà. Faut tout
Ah
faire
mais
pour
ouais, il y a
tout
une
explorer,
ambiance,
mais
des décors.
c'est très très silencieux. On ne croise jamais personne. On est vraiment livré à
Mais
soi-même.
oui.
Voilà.
Et il y a un livre qu'on ouvre comme ça et qui est mystérieux aussi.
Voilà, donc moralité,
Bon.
les silences, c'est bien. Bon, du coup, voilà,
Voilà,
normalement.
j'ai fini avec mes anecdotes.
Mais non, mais c'était vraiment, vraiment super comme ça de pouvoir t'avoir pour nous sur une heure complète de temps. Là, c'était. Et ben, ce qui est chouette, c'est que moi, j'avais peur au début qu'on n'ait pas le temps de voir un peu. Alors, on n'a peut-être pas approfondi autant qu'à chaque fois, j'ai ce goût de trop peu, je me dis, oh, il y a tellement de choses qu'on pourrait voir encore plus en profondeur. Mais bon, il faut quand même être raisonnable et garder le meilleur pour la suite, parce que voilà, on
Mais
va te
oui.
réinviter, hein, bonne madame.
Ah, c'est gentil.
Voilà.
Mais
On te garde avec nous.
je reviendrai avec plaisir.
Voilà. Et surtout, bah, c'était extrêmement intéressant d'avoir un témoignage aussi qui complète. Moi, c'est souvent quand je m'exprime bah, du point de vue de l'écriture, un peu voilà, ce que je connais par rapport à ça. Là, du coup, moi-même, hein, j'ai appris plein de choses par rapport aux techniques de la bande dessinée. Voilà, je sais que maintenant, voilà, pour quand je fais une aquarelle, de passer un stylo feutre pour faire le tracé ancrage, ça ne marche pas. J'ai des pistes pour la prochaine fois. Ben, en tout cas, un grand, grand merci à
Super.
toi. Merci
Mais tarde de
Valéria.
voir ton prochain dessin. Avec
Merci.
plaisir.
Un grand, grand
Et
merci aussi
à bientôt.
à toutes les personnes
Oui.
qui sont venues assister au vocal, qui ont posé des questions hier sur le salon. Les questions, bah, je me suis dit,
Oui,
tant
merci
qu'à
à
dire,
tous pour vos questions.
basé dessus pour l'intégralité hein, là, de l'entretien. Donc, merci. Hein, c'était une très, très, très chouette question. J'espère que je n'ai oublié personne. Et de toute façon, tout a été enregistré. Donc, voilà, je mettrai très rapidement le replay à disposition sur mon site. Et si tu veux, Anida, hein, tu n'hésites pas, je te passerai le lien hein, si tu veux le partager. Et voilà, donc
Oui, ok.
bonne fin de journée à tout le monde. Hein, terminez bien, bien votre dimanche. Et voilà, une prochaine audio rencontre. Et tu es la bienvenue, Vanida, quand tu veux, sur le vocal, sur le chat. Tu es la bienvenue.
Ok, avec plaisir.
Et ben du coup, au revoir tout le
Merci
monde.
à tous.
Au revoir.
Merci Christelle.
Un gros gros
Au
bisou.
revoir.